France Culture.
Question d'islam par Ghalib Bensheikh. Aujourd'hui, nous parlons de fêtes, de célébrations. Le terme consacré, c'est éortologie, l'éortologie islamique. L'éortologie est cette science des temps sacrés, la discipline qui étudie les fêtes et leur histoire. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec Tarek Obrou. Tarek Obrou, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes grand imam de Bordeaux. Vous êtes un théologien de renom, recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux, auteur de nombreux ouvrages. Vous avez une pensée et une réflexion sur les problématiques contemporaines. Et avec vous, en ces temps de célébration et en cette fin de la lunaison en Ramadan et cette fin du jeûne observée par les musulmans et musulmanes de stricte observance en France et de par le monde, quel sens donne-t-on à la fête et comment l'appelle-t-on en langue arabe avec cette notion de Aïd?
En effet, le mot Aïd vient du verbe Aada qui signifie revenir. Donc il s'agit d'un événement célébré pour entretenir justement sa mémoire. C'est quelque chose qui revient de manière cyclique. Le propre de la fête, c'est de célébrer la mémoire d'un événement généralement heureux. On ne fête pas des faits et des événements tristes. Donc, généralement, quand on parle de la fête, on renvoie à la joie, à quelque chose de positif, mais dont l'objectif, c'est d'entretenir un événement passé, justement pour conserver sa mémoire au sein d'un groupe, d'une communauté ou d'une nation. Cette fête, elle peut être religieuse ou séculière. Le propre de la fête, c'est d'être cyclique, c'est un temps cyclique qui va dans le sens contraire du temps social, du temps politique, du temps historique qui est linéaire.
Oui.
Comme s'il s'agit de vraiment de récupérer quelque chose de passé.
Les puristes de la langue française distinguent célébrer de commémorer. Comme vous le dites si bien, on commémore ce qui a pu attrister dans le passé et dans la vie des groupes humains, et on célèbre ce qui a pu réjouir. Et d'une manière encore plus à la fois sociale et philosophique, la fête est un temps par définition extraordinaire.
Oui, c'est un moment marquant dans la vie d'une communauté ou d'un groupe. C'est un moment de joie. Généralement, la fête est liée à un état psychologique, spirituel, mental, qui renvoie à la joie, au contentement. C'est une joie généralement profane qui peut être liée également à un événement spirituel. La fête religieuse renvoie à ce qui est universel, c'est-à-dire un état psychologique de joie qui est de l'ordre du profane. Donc il y a l'intrication ici entre le sentiment spirituel et le sentiment profane dans la fête qui nous concerne ici, la fête de la fin du mois de Ramadan.
Nous aurons en parlé durant toute l'émission, mais encore une fois, d'un point de vue à la fois anthropologique et social, pourquoi éprouve-t-on ce besoin de rompre la monotonie du temps linéaire par des moments qui en sortent, j'ai dit tout à l'heure, extraordinaires, où tout est bouleversé? Dans une fête célébrée en entreprise, par exemple, il n'y a plus de hiérarchie. Nous verrons le patron, le PDG, avec le stagiaire, quasiment ensemble.
Oui, le propre de la fête, c'est de s'émanciper de la routine et d'un certain nombre de codes et d'interdits. Et donc c'est une exception, c'est un moment d'exception par rapport à la norme sociale ou bien à la norme, je dirais, normative, d'une certaine manière. Donc on peut se permettre certaines choses pendant la fête, qu'on ne peut pas se permettre dans le restant de l'année, d'une certaine manière. Donc c'est un fait extraordinaire dans le sens de l'exceptionnel.
Et une fois passé ce temps, ce moment de la fête, les choses redeviennent, mais on éprouve le besoin de le vivre encore une fois, d'où le caractère cyclique de la fête.
Oui, il y a toujours cette alternance entre la routine et l'exceptionnel, entre le religieux, le profane et le religieux, pour sortir de l'ennui existentiel. L'homme a besoin de changer de rythme, de changer de registre. L'homme a toujours essayé de sortir de la routine d'une certaine manière. Et la fête, elle nous fait sortir justement de la routine, même s'il s'agit d'une routine religieuse.
La routine religieuse, finalement, c'est le cumul du temps consacré à l'observance des rites. Comment fait-on pour ponctuer ou marquer un temps ordinaire, celui où l'on observe tout un rituel, et celui qui en émancipe?
Oui, c'est sortir un petit peu de l'habitude. Il ne faut pas que la religion soit une habitude. Le jeûne, il ne faut pas qu'il soit une habitude, par exemple. Sinon, ce jeûne-là n'a pas de sens s'il devient la norme constante. Et donc, effectivement, la fête, elle rend la routine, même si cette routine concerne un culte. Et donc, effectivement, la meilleure habitude, c'est de ne pas être asservi par une habitude. Donc, il faut toujours essayer de chercher de sortir d'une certaine éthologie qui condamne l'homme à répéter tout le temps les mêmes pratiques, même si ces pratiques concernent la transcendance et la pratique cultuelle.
Le jeûne du mois de Ramadan, indépendamment d'autres considérations, est perçu par certains comme une sorte de privation, une ascèse qui n'a plus aucun sens de nos jours, alors que pour d'autres, c'est effectivement une manière non seulement de juguler les passions, de réguler les désirs, d'œuvrer sur ses mauvais penchants et ses mauvaises pulsions. Il y a aussi l'aspect transversal dans la cité, de l'entraide, de la solidarité, il y a l'aspect du recueillement, ça ce sont des choses connues. Mais il y a aussi une fête chaque soir quand on a rompu son jeûne.
En effet, déjà le jeûne est une forme de sortie de la routine de la consommation. D'une certaine manière, c'est un rappel à l'homme qu'il ne s'agit pas uniquement d'entretenir le biologique, mais de faire triompher l'esprit sur les instincts, c'est-à-dire une forme de modération des instincts quant à la consommation biologique d'une certaine manière. Et donc plus que jamais, le jeûne, à notre époque, est une résistance à cette tyrannie, cette injonction de consommer. Donc je consomme, donc j'existe. On pourrait dire, à la place de cette phrase, je jeûne, donc j'inhibe, et j'inhibe, donc je pense, et je pense, donc je suis libre, d'une certaine manière. Se libérer de soi-même, se libérer de ses instincts pour mieux les domestiquer, les modérer. Et donc, effectivement, le mois de Ramadan, c'est une sortie de la routine, justement, qui fait que l'homme n'a d'attention qu'à consommer la nourriture, le sexe, etc. C'est un moment de modération et de sortie de la routine. C'est le propre même du jeûne, que de retrouver sa dimension spirituelle. On dit toujours, certains mystiques disent que lorsque le corps est rassasié, l'âme a faim. Et lorsque le corps a faim, l'âme est rassasiée. Donc nous sommes constitués de ces deux éléments antagonistes qu'il faudrait équilibrer. Le jeûne, c'est une quête d'équilibre entre les besoins biologiques et les besoins spirituels. D'ailleurs, le jeûne, c'est un jeûne diurne, il ne dure pas 24 heures. Donc, comme vous l'avez dit, à la fin de la journée, il y a un moment de joie, de rupture, de déjeunement, al-fitr. Oui. Moi, je traduis Eid al-fitr, la fête de déjeunement. La règle, c'est de ne pas manger, puisque nous sommes à l'origine un esprit. Mais cet esprit a épousé le corps, donc il est sorti du jeûne au déjeunement. Et donc en vérité, le jeûne, c'est un retour à notre dimension spirituelle. Et on déjeune, c'est-à-dire on rompt notre jeûne le soir et on apprécie la nourriture après privation. On dit toujours, on estime la chose, on la considère, on l'apprécie, on apprécie la chose après privation. Donc on retrouve le goût de la nourriture après privation. Parce qu'on est toute l'année habitué à consommer jusqu'à perdre le goût du plaisir. Donc en vérité, cette privation nous initie à apprécier le plaisir. Paradoxalement, nous sommes dans une forme d'hédonisme, une initiation à un hédonisme qui consiste à retrouver notre nature humaine et biologique après privation pour mieux apprécier le don.
Mais cet hédonisme n'implique pas nécessairement, comme certains le comprennent, que le soir il faut rattraper et compenser en faisant joyeuses bonbons, séries paille. Alors en réalité, c'est simplement, comme vous le dites si bien, d'apprécier la saveur et le goût des choses ordinaires après une privation. Mais est-ce à dire que le jeûne est une ascèse plutôt morose et qui est en relation proportionnellement inverse avec dans cette dialectique âme-esprit, où il y a quelque chose qui est inhérent au jeûne et qu'on marque après sa rupture par une joie intérieure?
Cette joie, elle est à la fois physiologique et spirituelle. On ne peut pas fissurer l'être humain. Le spirituel n'est pas en opposition par rapport à la chair, et la chair n'est pas opposée à notre aspiration spirituelle. Et donc, effectivement, tout dépend de l'intention et de l'idée qu'on a du jeûne. Le jeûne, c'est d'abord une pensée, avant qu'elle soit une pratique, le sens du jeûne. Et donc cette joie dont il s'agit, c'est pas de se goinfrer, de se remplir le ventre. Là, on perd véritablement le goût de la nourriture. Il faut jamais posséder la chose totalement, parce que la possession flétrit le désir. Or, le but, c'est de toujours entretenir ce désir de la chose. Et donc, toujours la modération qui doit être la règle, même après la rupture, même pendant la rupture du jeûne. Parce que le but, c'est vraiment justement trouver cet équilibre entre les besoins biologiques et spirituels. Rattraper ce qu'on a manqué la journée, ce n'est plus un jeûne. Parce qu'il faut diminuer la consommation de la nourriture et la consommation sexuelle. Si on rattrape le soir ce qu'on a manqué la journée, ce n'est plus un jeûne. Il faut réduire modérément nos instincts.
Et alors, comme une des définitions de l'homme est d'être cet éternel insatisfait, est-ce à dire aussi que, pour d'autres, la définition du bonheur, c'est d'avoir une plénitude et une satisfaction totale, que l'homme, en l'occurrence dans la pratique islamique du jeûne, du mois de Ramadan, il y a une manière de chercher après une satisfaction, fût-elle modérée ou graduelle?
Il y a deux satisfactions. Je pense qu'il est légitime de chercher une satisfaction profane. Ce n'est pas interdit. Ça fait partie de notre nature. Mais le propre du jeûne, c'est aussi chercher une autre satisfaction qui est spirituelle, la joie de l'esprit. Ce n'est pas cette joie ne relève pas de la psychologie, mais plutôt d'un état intérieur que ressent celui qui jeûne vraiment, avec une intention. Parce que c'est l'intention qui détermine la qualité de la pratique. Pourquoi et pour qui je fais le jeûne, avant de chercher le comment. Le comment, c'est la forme. S'abstenir, ce n'est pas uniquement s'abstenir de manger et de boire, c'est s'abstenir d'avoir des pensées négatives. C'est une inhibition, c'est-à-dire une action par l'inaction, l'abstinence. C'est un acte d'abstention, c'est-à-dire de l'inaction. Il faut apprendre à s'inhiber. Donc l'inhibition, c'est une action. Dans un monde où la pulsion de violence, de consommation pourrait nous engager dans des guerres interminables. Et donc le premier combat se situe à un niveau intérieur. Le jeûne nous renvoie à cette modération, à ce contrôle intérieur de la pensée, du regard, de la parole, de l'écoute, de l'action. C'est ça le jeûne profond. Il y a le jeûne du corps, il y a le jeûne de l'intelligence, il y a le jeûne de l'esprit, il y a le jeûne du cœur. Et donc il y a le jeûne exotérique, il y a le jeûne ésotérique. Les deux vont ensemble.
Ce n'est pas tant une privation au niveau de l'estomac ou de se retenir des rapports charnels que le fait de jeûner contre les mauvaises pensées. Et on a eu l'occasion sur cette antenne de parler de ne pas ourdir un complot contre autrui au moment où on jeûne. Ça paraît antinomique. C'est aussi le jeûne de la parole, le jeûne, ne serait-ce que de ne pas proférer des grossièretés. C'est à ce niveau déjà d'un degré premier avant les montées vers des cimes éthérées de contrôle de soi.
Oui, le but généralement du culte, ce n'est pas uniquement une connexion avec la transcendance, mais également une transformation du comportement au sein de la société, au sein de la famille, au sein du groupe, etc. Donc la piété n'est pas uniquement une observance du culte, une abstraction de ses portées éthiques et sociales. Le prophète met en garde le jeûneur contre la vulgarité, la violence, le faux témoignage. Il y a un ensemble de textes qui accompagnent le jeûne et qui concernent le comportement du musulman pendant le jeûne.
Oui, le fameux hadith, si on te cherche noise pendant que tu jeûnes, réponds paix, je suis jeûneur.
En effet.
Il faut peut-être être extrêmement prudent avec les versets coraniques et surtout ne pas les extraire hors contexte et ne pas s'en prévaloir comme ça à tout va. Mais je ne résiste pas à la tentation d'en exhiber un. C'est le fameux verset 58 de la sourate 10, la sourate de Jonas, et qui dit comme ça en substance, à propos de la grâce divine, et ceci provient de la grâce de Dieu et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Là aussi, est-ce à dire à comprendre ce verset, que le fait de se réjouir, de marquer les temps de réjouissance, de fête et de joie, est une bénédiction et une grâce divine.
Oui, à la fois c'est une joie spirituelle, physiologique, profane et religieuse en même temps. Mais tout est lié à la transcendance, à l'absolu, à Dieu, cette grâce à laquelle le cœur du croyant est attaché, parce que le musulman fait plus confiance à la grâce de Dieu qu'à ses propres œuvres, parce que c'est la grâce qui sauve le croyant, ce ne sont pas ses pratiques. Il ne faut pas perdre Dieu dans la pratique, il ne faut pas perdre le sens de la pratique dans la pratique. Et donc il faut toujours rappeler le croyant le sens de ce qu'il fait. Et pour qui il le fait. Et quand on fait la chose pour Dieu, on le fait également pour soi et pour les autres également. Et le jeûne, en réalité, c'est une déclaration qui signifie que je ne dépends que de Dieu. Je peux me passer de la nourriture, mais je sais que c'est Dieu qui me donne tout. Donc j'oublie un petit peu les moyens pour chercher la cause incausée qui est Dieu et qui est derrière toute chose. Donc la notion de Dieu est toujours présente. Mais de quel Dieu s'agit-il? C'est ça aussi la question qui se pose. Est-ce que c'est un Dieu qui prescrit le jeûne pour mortifier le corps ou bien un Dieu qui fait la loi pour l'homme mais pas celui qui a créé l'homme pour la loi? Dieu n'a pas créé les gens pour jeûner, mais il a fait le jeûne pour les personnes. D'ailleurs, le prophète a dit « Sou mutasihou, jeûnez, vous aurez la santé mentale, la santé du corps. Tout jeûne qui mortifie le corps, qui le tue et qui l'affaiblit jusqu'à l'épuisement n'est pas désiré par Dieu. Parce que le but du jeûne, c'est de modérer le corps pour élever l'âme, c'est ça le but. Donc il ne faut pas perdre les finalités des pratiques. Le but, ce n'est pas de jeûner pour jeûner, mais d'atteindre quelque chose qui nous dépasse. Le culte, c'est un moment de dépassement de soi. Il y a des choses qui nous dépassent, cette chose ou bien cet être qui nous dépasse, c'est Dieu, c'est l'absolu. Et donc on cherche d'une certaine manière une perfection. Étant imparfaits, nous sommes perfectibles en même temps. Et donc le jeûne procède ou bien participe de cette perfectibilité.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons du sens de la fête, de ce temps particulier de célébration, de réjouissance. Et en cette fin de Ramadan, et pour parler tout particulièrement de l'Aïd, la fête de la rupture du jeûne Aïd el-Fitr, c'est avec Tariq Oubrou, grand imam de Bordeaux, théologien, penseur et qui réfléchit à ces problématiques des sociétés contemporaines, recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux. Pour cette deuxième partie, cher Tariq Oubrou, tout à l'heure je vous ai dit que le jeûneur, chaque jour, est dans une sorte de montée, chaque soir éprouve de joie, la joie d'avoir accompli, si je puis dire, son devoir religieux, la joie aussi de goûter aux saveurs et aux offrandes qu'il peut avoir pour manger. Et tout cela culmine le jour de l'Aïd.
C'est comme une forme d'initiation à une joie finale. Donc on vit la joie chaque soir, en vue de vivre une joie finale, c'est-à-dire après le mois de Ramadan, pendant l'Aïd el-Fitr que moi je traduis par fête de déjeunement. Et donc en vérité, la fête du déjeunement, bien le fête d'Aïd el-Fitr, est lui-même une préfiguration de la joie éternelle dans l'au-delà. Donc Dieu nous fait goûter de la joie profane pour pouvoir accéder à une joie éternelle. Donc comme si le plaisir nous conduit vers Dieu d'une certaine manière. Il n'y a pas que le rite et la pratique et l'abstinence qui nous conduit vers Dieu, mais également la joie, c'est-à-dire pratiquer dans la joie et pas dans la tristesse. Malheureusement, beaucoup de morphologie de pratique d'un certain nombre de musulmans donne l'impression que l'islam est une religion triste, austère, etc. Non, c'est pas du tout vrai. Il y a toujours un plaisir dans la pratique. Et le but, c'est d'atteindre la béatitude et la félicité et le bonheur et le plaisir éternel dans l'au-delà en le vivant dans les cités.
Comme une préfiguration.
C'est une initiation, préfiguration de ce qui nous attend dans l'éternité. Et donc c'est une motivation de plus pour le croyant. C'est une motivation, mais une motivation qui est dans son intérêt dans l'ici-bas. Parce que la charia, ou bien les lois de l'islam, ne conduisent pas uniquement à la félicité dans l'au-delà, mais ils cherchent également à assurer un salut dans l'ici-bas. Également, en modérant ses instincts, en goûtant au plaisir avec modération. C'est le juste équilibre que cherchent à réaliser les enseignements de la religion en général.
Oui, mais qu'est-ce une joie éternelle ? Alors, à un moment donné, on finit par s'y habituer, l'habitude mène à l'ennui. Enfin, c'est moi qui pose une question provocatrice. Où il y a quelque chose qui est une sorte de montée crescendo, même dans une configuration d'un au-delà annoncé comme meilleur et durable.
Oui, la promesse qu'annonce le hadith qui parle des deux joies, la joie dans ce bas monde et la joie lors de la rencontre de notre Seigneur dans l'au-delà, qui est une joie eschatologique finale, et qui n'est pas une routine. Il n'y a pas de routine, c'est toujours quelque chose d'exponentiel d'une certaine manière. En tout cas, c'est une motivation eschatologique pour que le musulman pratique un jeûne convenable, utile pour lui, socialement, économiquement, spirituellement, mentalement, parce qu'il faut toujours souligner que les lois de la religion doivent assurer déjà la béatitude dans ce bas monde. Rencontrer Dieu dans l'ici-bas avant l'au-delà, vivre joyeux dans ce bas monde avant l'au-delà, bien sûr cela demande un effort, mais c'est un effort qui a pour finalité une foi jouissive, heureuse, sans être dans la vulgarité et l'excès.
Ni la culpabilité non plus.
Étant imparfait par essence, quelle que soit notre pratique, elle reste imparfaite. Et on sait que beaucoup de musulmans ne respectent pas totalement le jeûne. Il y a toujours le rattrapage, le repentir. Ce n'est pas la faute qui est grave. C'est le fait de la justifier. La faute et l'erreur s'en nourrissent du progrès intellectuel et moral du croyant. On évolue par faute et par erreur. Et donc, il n'y a pas de sentiment de culpabilité. Il y a l'éveil de la conscience en quête de perfectibilité, de perfection morale et spirituelle. La perfectibilité, c'est un chemin, ce n'est pas une arrivée. Et il n'a pas été demandé aux croyants de vaincre, mais de mener le combat. Le jihad al-nafs, le combat moral intérieur. Il peut pécher, il peut manquer un jour, il peut faire des choses qui ne sont pas conformes à la prescription du jeûne, mais c'est prévu. C'est prévu par Dieu, c'est prévu par le Coran. Oui, quand on fait quelque chose, on rattrape et puis on continue le chemin vers l'absolu. Comme disait un saint, marchez vers Dieu en boitant, en marchant. Marchez vers Dieu comme vous pouvez, mais n'attendez pas la santé totale, parce que c'est impossible d'être parfait.
Oui, et vous évoquiez tout à l'heure ce qui est paradoxal. À la fois, il y a une pratique ascétique et en même temps génératrice de plaisir. Qu'est-ce que c'est que cet hédonisme un peu ambivalent de la pratique religieuse? On est, en ce qui concerne le jeûne, on est dans la privation, on s'interdit, vous avez parlé même d'inhibition, de tout ce qui flatte les sens, et en même temps, il y a un plaisir dans cette privation.
Mais il n'y a pas de plaisir sans privation. Si le plaisir est la règle, il se dissout par lui-même. C'est après l'effort qu'on apprécie le résultat, généralement. Le salaire, c'est après le travail. Et donc, c'est tout à fait normal qu'après l'effort, on trouve un plaisir. Et donc, c'est un effort rentable, d'une certaine manière. Il n'est pas absurde. Et donc, le sérieux et l'ascétisme ne sont pas antinomiques à la demande humaine, de profane, que de chercher la joie, mais une joie qui s'inscrit dans un cadre. Ce n'est pas une joie qui pousse l'individu à faire n'importe comment. C'est une joie sereine qui est à la fois psychologique et spirituelle.
Oui. Alors, maintenant, parlons d'une manière concrète et descriptive de cette célébration de l'Aïd, notamment Aïd el-Fitr, ce que vous avez appelé la fête du déjeunement, ou en tout cas on déjeune étymologiquement, on ne jeûne plus. D'ailleurs, il y a même une injonction à ne pas jeûner ce jour-là. Il y a aussi une injonction, ce qui est curieux, à marquer la joie.
Oui, donc il y a l'injonction de ne pas manger, et pendant l'Aïd, il y a l'injonction de manger. Mais dans les deux cas, c'est une injonction qui est acceptée de manière volontaire, libre et intelligente et modérée, de manière modérée toujours. Adilou, le Coran demande toujours la modération, la justesse dans l'action. Et effectivement, pendant le jour du déjeunement, Il faut manger, même pour ceux qui ont l'habitude de jeûner de manière constante. Donc, l'Aïd, c'est interdit de jeûner. Donc, voilà, ce qui était permis devient interdit. C'est justement pour nous faire sortir de l'habitus, de l'habitude, etc. C'est la rupture qui s'inscrit dans une continuité vers la perfectibilité par la sortie de l'habitus. D'ailleurs, Ibrahim, il s'appelle Hanif, parce qu'il est oblique, il sort de l'habitus de son peuple. Il n'y a pas pire pour la spiritualité que de sombrer dans l'habitude de la pratique. C'est pourquoi les pratiques sont variées, il y a une adaptation, il y a un changement, etc. Donc effectivement, comme vous l'avez bien souligné, c'est que la fête, c'est un moment extraordinaire, exceptionnel, justement, pour assurer cette sortie de la routine, même s'il s'agit d'une pratique sérieuse comme le jeûne.
Néanmoins, la fête elle-même a aussi son propre protocole et son propre rite. Et comme c'est une fête religieuse, il y a une partie proprement religieuse qui est celle des célébrations, des glorifications de Dieu lors de la prière de l'Aïd.
Oui, il y a une prière qui ressemble à la prière du vendredi, que j'appellerai moi une messe, parce que c'est une fête.
Et un rassemblement.
Qui est dès le matin, il y a Salat l'Aïd, la prière de la fête, assistée par les anges, donc il y a l'assistance de deux communautés célestes et terrestres, donc c'est une joie céleste et terrestre, et donc c'est un moment de rituel, mais de joie. Et là, il y a vraiment une convergence vraiment entre un état psychologique de joie pendant le rite, c'est-à-dire vraiment les gens, généralement, lorsqu'ils font la prière de la fête, ils sont dans la joie. Ce n'est pas comme le cas pour la prière du vendredi, où il n'y a pas cette notion supplémentaire de la joie. Donc effectivement, c'est un moment assez particulier, où il y a une présence massive de musulmans lors de cette liturgie, de cette pratique de Salat l'Aïd, la prière du vendredi, où il y a un serment, et puis il y a deux rakats, deux cycles. Et donc, c'est un moment très, très important, en tout cas, dans la vie des croyants. C'est comme la fête du sacrifice, ce sont deux moments vraiment de rite et de joie en même temps.
Oui, on dit qu'il y a deux fêtes principales, celle du sacrifice. Peut-être qu'on lui consacrera une émission ad hoc. Là, nous parlons de la fête dite de rupture du jeûne. Vous parlez de déjeunement. Pour sa partie proprement religieuse et spirituelle, il y a cette rencontre, cette congrégation des fidèles à la mosquée, des glorifications, des chants aussi, et un sermon de l'imam du haut de sa chaire pour enjoindre les fidèles d'abord à s'adonner la collade et à se pardonner mutuellement en guise de quelque chose qui prépare la journée à être joyeux et à purifier son cœur de toutes les rancœurs.
Oui, on a fait juste après la prière, il y a une ambiance très, très fraternelle entre les croyants, les femmes, les hommes. D'ailleurs, le prophète a insisté à ce que les femmes assistent à toutes les prières en général, mais à cette prière de la fête en particulier, même si certaines ne sont pas concernées rituellement par cette pratique, tout le monde doit assister d'une certaine manière à ce moment-là communautaire, mais qui n'est pas isolé de toute la société, notamment la société dans laquelle nous vivons, la société française. Donc effectivement, il faut en tout cas que le musulman, ici en France, il faut qu'il vive cette joie, non seulement avec ses corps religionnaires, mais avec son entourage, de toute la société. Donc il faut une diffusion de cette joie, non seulement au sein de la communauté, mais également au sein de la société, un moment de générosité, un moment de bonté, un moment de partage également.
Oui, et c'est pour ça que ça ne concerne pas le dimanche, même si aujourd'hui il s'agit de dimanche, les croyants et croyantes sont endimanchés, parce qu'il y a aussi cette, c'est dans la tradition, la volonté de s'habiller de neuf ou de propre et de marquer par les habits, par sa manière d'être déjà physique, le fait d'être en apparat.
Oui, ben, qui dit fête dit joie, et quand on est dans la joie, on s'habille de manière à manifester justement cette joie. Donc c'est un moment où il y a une forme d'esthétique et d'apparence. Selon les traditions, dans les pays musulmans, chacun a ses propres habits. En France, bon, on n'est pas obligé de s'habiller comme dans d'autres cultures, mais les gens sont libres de s'habiller avec les habits qu'ils considèrent comme les habits qui sont une manifestation de leur joie. Et donc, voilà, cette joie peut se traduire dans des attitudes vestimentaires différentes.
Et dans notre société sécularisée et sous la voûte commune de la laïcité, le fait de marquer ce temps de joie et d'allégresse, notamment par le vêtement, c'est selon les moyens. Si on a les moyens d'avoir des costumes des grands couturiers, ben on le fait, et sinon, bon, on se contente de ce qu'on a. L'essentiel, c'est de pouvoir porter du neuf.
Ce n'est pas une question toujours de la valeur de l'habit. Il s'agit du style. On peut s'habiller avec un costume à 2000 euros sans style. On peut s'habiller avec un costume à 50 euros avec une élégance. Donc, il s'agit d'avoir une forme d'élégance, d'esthétique qui ne nous coûte pas forcément très cher. Donc, il ne faut pas que les gens se ruinent pour s'habiller pour ce jour-là. Donc, songer, c'est être vraiment dans l'élégance et une esthétique qui manifeste cette joie. C'est aussi un moment de partage, puisque pendant l'Aïd, les gens donnent Zakat al-Fitr.
Oui.
Cette dimension sociale du jeûne, parce qu'on se prive pour donner, on ne se prive pas pour thésauriser. Ce qu'on a économisé en matière de repas, bon, il faut, comme on a partagé la faim et le pincement de l'estomac avec le pauvre, on partage l'argent également avec le pauvre. Donc, chaque fois que le Coran parle de la prière, de la salat, il évoque la zakat. Et le jeûne également n'échappe pas à cette règle. Le culte est toujours associé au don. Et donc, effectivement, il y a une zakat qu'on donne. Il y a même des canonistes qui pensent que cette zakat n'est pas intracommunautaire. On peut la donner à des non-musulmans. Là, c'est une ouverture sur l'altérité, alors qu'on est dans un moment proprement cultuel, intracommunautaire. Donc, le culte, d'une certaine manière, par le don, nous ouvre également sur la société en partageant cette somme qu'on donne après le ramadan. On peut la donner également à des non-musulmans qui sont dans le besoin.
L'idée, c'est bien sûr qu'on est dans une optique de partage, de solidarité, d'entraide. Il y a aussi, sans vouloir la réduire uniquement à être au sein même de la composante islamique de la société, c'est pour que ceux qui n'ont pas les moyens de manifester la joie, soit des repas, soit comme on l'avait évoqué pour les aspects vestimentaires, pour qu'ils puissent en avoir et contribuer ainsi avec cette aumône qui est, elle, consacrée à la fête de la rupture du jeûne.
Oui, il y a un hadith qui n'est pas authentique et qui lit cette aumône uniquement au jour de la fête. Mais en réalité, c'est un avis minoritaire, celui des malikites. Les autres doctrines pensent que ce don n'est pas lié forcément au jour de la fête, mais on peut la donner à d'autres bénéficiaires, au-delà du jour de la fête. Mais effectivement, le mieux, c'est que tout le monde participe à cette fête. Donc il y a un élan de solidarité, abstraction faite justement de ce don lié au jeûne du mois de Ramadan. Puisque, par exemple, les Hanafites pensent que oui, on peut donner cette zakat al-fitr, ce qu'on appelle la fatra, al-fatra. On peut la donner également à des non-musulmans. Et donc voilà, c'est une sortie de seul registre de la communauté musulmane. Oui. Voilà, c'est, moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus cet avis qui marque une certaine altérité quant à une pratique qui y est censée être intracommunautaire. Et donc, on peut donner de cet argent même à ceux qui ne participent pas à cette fête, d'une certaine manière.
Et c'est aussi une manière de montrer sa fête par le don et
la partager.
Tout ça. Bah,
j'ai dit, cette fête concerne également la société. C'est pas uniquement la communauté musulmane.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons avec le recteur Tarek Oubrou du sens de la fête et tout particulièrement l'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Tarek Oubrou est grand imam de Bordeaux et recteur de la grande mosquée de Bordeaux, théologien, penseur et qui réfléchit à réactualiser le sens des pratiques religieuses dans des sociétés sécularisées. Pour cette dernière partie, cher Tarek Oubrou, il y a quelque chose de tout aussi important, c'est on ne passe pas cette journée sans avoir demandé pardon à ceux qu'on a lésés et on est tenu aussi d'accorder son pardon à ceux qui l'avaient demandé. En tout cas, c'est la tradition.
Oui, vous avez bien fait de souligner cet aspect important et cardinal qui fait l'essence même de la fête. Quand on est dans la joie, on ne peut que pardonner. C'est donc une disposition psychologique favorable au pardon. Et donc, effectivement, c'est le moment ou jamais où le croyant est invité à pardonner. Parce que, voilà, surtout quand il s'agit de conflits intrafamiliaux, généralement, vous savez, les plus grandes souffrances et les conflits les plus violents se situent au niveau des familles. Et donc on ne peut pas faire la fête sans réconciliation. Donc c'est un moment de réconciliation, la fête de l'Aïd al-Fitr, c'est un moment de réconciliation avec soi-même, avec Dieu, avec les autres, avec la famille, avec la communauté et avec les concitoyens également. Donc il ne s'agit pas de chercher le pardon auprès de ses coreligionnaires, il faut également chercher le pardon auprès de nos musulmans qu'on aurait lésés.
Oui.
Donc effectivement, c'est un moment de repentir et de pardon.
Il est bien dit, en tout cas dans la tradition, que celui qui a le plus de mérite est celui qui vient à résipiscence, qui fait le premier pas et qui se rend compte, disons, de sa manière peut-être incorrecte et de sa conduite qui a dû blesser, atteindre, en tout cas léser autrui, prochain ou lointain. Et comme vous le dites si bien, les heurts les plus emportés sont au sein des familles. C'est une manière de souder à nouveau un temps de réconciliation.
Oui, en effet, il y a des textes prophétiques qui vont dans le sens de considérer que le meilleur et le plus courageux, c'est celui qui commence par le pardon. Et donc c'est celui qui demande pardon le premier. Et donc, c'est ça le courage moral. C'est pas l'orgueil qui est le courage. Le courage, l'orgueil est une faiblesse. Alors que reconnaître ses torts, et même parfois, même si on n'a pas tort, il faut faire le premier pas. C'est très important et ça demande un courage. Et je pense qu'il faut élever nos enfants à reconnaître leurs fautes. Malheureusement, c'est jamais de notre faute. Il y a vraiment une mentalité de justification de nos erreurs. Il faut, dès l'âge de l'enfance, apprendre à l'enfant de reconnaître ses torts et demander pardon. Il y a une forme de discipline et la discipline exige le fait de se conformer à la règle, et si on ne respecte pas la règle, on doit s'excuser. C'est très important, c'est un courage, ce n'est pas une faiblesse.
Il est important, et c'est pour ça d'ailleurs que ces deux grandes fêtes fondamentales ou principales de la liturgie islamique, la fête du sacrifice et celle dont nous parlons aujourd'hui, la fête de la rupture du jeûne, a cette importance de marquer le temps de réconciliation, du pardon, etc. Il y a aussi un autre aspect, c'est celui d'aller rendre visite aux plus proches, aux personnes âgées. C'est inhérent à cette journée.
Oui, je pense que c'est un aspect très important que vous évoquez ici. Dans une société où la solitude tue les gens. Il y a la misère économique, mais il y a la misère psychologique. Beaucoup de gens sont isolés. Dans la solitude, dans la souffrance, à cause de leur exclusion d'une certaine manière. Et là, vraiment, c'est l'occasion d'aller chercher les gens souffrants, les gens isolés, etc. C'est un acte méritoire qui constitue l'essence même de la fête. On ne peut pas être dans la joie et oublier ceux qui sont dans le malheur. Ce n'est pas une joie parfaite. Tant qu'il n'y a pas cet acte, en tout cas, de chercher à rencontrer les gens qui sont anonymes, qui sont invisibles dans la société, et parfois qui appartiennent à nos propres familles et qui sont oubliés. Et c'est l'occasion d'aller physiquement, sinon par coup de téléphone. On a beaucoup de moyens aujourd'hui pour contacter les gens. Et donc c'est un jour de joie, mais d'action également. Ce n'est pas une loisiveté, c'est un jour d'action également, de joie, de repos, mais également d'action dans le sens de contacter les gens qu'on connaît et qui sont oubliés.
Et qu'en est-il de cette tradition d'aller se recueillir sur les tombes des défunts ?
Il n'y a pas de lien particulier, parce que cette fête elle est faite pour les vivants. Mais on peut toujours penser à nos morts et on n'est pas obligé d'aller physiquement auprès de la tombe pour prier pour nos morts. Ils sont toujours à côté de nous d'une certaine manière, puisque les esprits ne sont pas localisés dans la tombe, ils circulent d'une certaine manière. Donc il faut les rendre présents dans nos esprits pendant la fête également et de prier pour eux. Et il n'y a aucun interdit, bien sûr, au contraire. C'est une occasion également de rendre visite à nos morts. Ce n'est pas antinomique à la notion de la fête.
Et comment se déroule, disons, la journée ? Il y a un repas festif, certes. Les enfants s'amusent, on leur offre des cadeaux. Dans certains quartiers, on pétarade. Il y a des pétards ou des choses comme ça où... Et y a-t-il aussi des concerts de musique, des danses de joie ?
C'est à l'initiative des cultures en place. Donc chacun manifeste sa joie culturellement selon son goût, selon sa culture, etc. Il n'y a pas de code particulier concernant cette fête, à part le côté liturgique. À part le côté liturgique, les gens vivent leur joie, ceux qui sont d'origine subsaharienne, ceux qui sont d'origine maghrébine, ceux qui sont d'origine, je ne sais pas, chacun célèbre dans l'intimité parfois sa manière d'être joyeux. Mais rien n'interdit le fait d'organiser de fêtes collectives où il y a des chants, etc. Bien sûr, mais ça relève de vraiment du goût des gens. Il n'y a pas d'assignation normative, mais ce sont des normes plus culturelles que religieuses.
Et le sacrilège suprême, si j'ose dire, ce serait de s'adonner à quelques rixes ou à quelques bagarres ce jour-là. Bien au contraire, il faut être, disons, dans l'aménité la plus totale et marquer plutôt cette euphorie et cette allégresse intérieure et extérieure.
Il faut toujours rester à l'esprit du jeûne, qui est le fait de ne pas penser ni commettre le mal. On ne peut pas être joyeux en faisant le ramdam, comme disent certains. Oui. Le ramadan, ce n'est pas le ramdam. Ce n'est pas le bruit, ne pas respecter les voisins. Là, on est dans la transgression de la norme éthique et religieuse. Là, on n'est plus du tout dans l'islam.
Et il y a de nos jours plus de la manifestation des concitoyens non musulmans à l'égard des musulmans pour leur souhaiter joyeuses fêtes. C'est une manière de marquer ce lien d'une amitié civique et que le troisième volet du triptyque républicain soit une incarnation.
Oui, la société est attentive à ce qui se passe au sein de la communauté musulmane et je pense que notre société française est civilisée dans le sens où il y a où elle connaît les codes de politesse et donc oui, nous le sentons, nous recevons des coups de téléphone, de contact, de félicitations, pour la fête, oui. Donc on sent que cette fête est partagée par la société. En tout cas pour ceux qui sont sympathisants de cette communauté, mais c'est la majorité, bien sûr.
Bien, merci infiniment. Merci, cher Tarek Oubrou, de nous avoir, en tout cas, expliqué et parlé du sens de la fête, de ses dimensions spirituelles, théologiques, sociales. En tout cas, joyeuse fête à vous-même et à l'ensemble.
Oui, également à tous les musulmans et à toute la société française.
Et à ceux qui écoutent France Culture et l'émission Question d'Islam. Chers auditeurs, vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Nicolas Depagraf et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.
مبروك مبروك